commencer par un petit résumé de la fin du chapitre 35 qu'on n'a pas fait sur texte, donc je vais la faire rapidement à l'oral. Vous allez voir que même ceux qui n'étaient pas au cours précédent, c'est un nouveau sujet, donc il n'y a aucun problème. Vous savez que le Tania, il est structuré un petit peu comme des tronçons. Vous savez, comme quand vous allez à la montagne, quand on va à la montagne, quand on va au ski, etc. Il y a des tronçons. T'as premier tronçon, deuxième tronçon, troisième tronçon, etc. Et là, on peut dire qu'à partir du chapitre 35 et plutôt 36, c'est un nouveau tronçon du Tania, comme on va développer. Alors, c'est avec moi, Rabotai. On a expliqué dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre 35, Mourazakan a commencé à expliquer pourquoi l'action est l'essentiel. C'est le fameux grand débat qu'on a commencé. C'est un débat qui va nous accompagner pendant 5 chapitres, donc jusqu'au chapitre 40 et même 41, sur la grande question qui est à savoir... Qu'est-ce qui est plus important entre l'action et l'intention? Alors évidemment, vous allez me dire, le mieux, c'est de faire les deux. Mais dans les faits, il arrive très souvent dans la vie qu'il y a des choses qu'on fait, mais on fait que l'action. On fait que la mitzvah, mais on n'a pas la kavana. D'un autre côté, des fois, il peut arriver qu'on n'a que la kavana, mais qu'on n'a pas l'action. Alors, qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui est plus important? Alors, à partir du chapitre 36-35, on a expliqué que dans le judaïsme, l'essentiel, c'est l'action. C'est pour ça que le fameux exemple qu'on donne tout le temps, c'est quand je vois un juif qui est loin de la Torah, quelle est la première chose que je lui propose? C'est pas de venir à un cours, c'est de mettre les tefillines. Venir à un cours, c'est essayer de comprendre. C'est essayer d'avoir la kavana et essayer d'être dedans. Mettre les tefillines, c'est faire une mitzvah. D'ailleurs, souvent des gens qui critiquent, ils disent, mais pourquoi tu lui demandes de mettre les tefillines alors qu'il sait même pas pourquoi il les met? Peut-être d'abord tu vas lui expliquer pourquoi il les met, après tu vas lui mettre. La réponse, c'est qu'on a expliqué dans le chapitre 35, mais on va développer pourquoi. Que dans le monde dans lequel on vit, Akadosh Baruch Hu, il insiste pour qu'on fasse d'abord l'action. Après, bien sûr, la kavana est importante, c'est comme des ailes, ça va nous permettre de décoller. Mais on a expliqué que le plus important, c'est l'action. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le plus important, c'est l'action. Normalement, nous, les hommes, on a une particularité par rapport aux animaux, par rapport aux restes, etc. C'est qu'on a un intellect. On réfléchit. Donc, pourquoi limiter, brider Akadosh Baruch Hu et la Torah à l'action? Et il faut être honnête, la majorité du peuple juif, on les appelle pratiquants. C'est quoi un pratiquant? C'est une personne qui fait. Mais est-ce que forcément ils comprennent ce qu'ils font? Non, pas forcément. Peut-être même pas du tout. Alors, est-ce que c'est pas dommage? Comment ça se fait qu'on insiste tellement pour que les mitzvot soient faites dans l'action? Et s'il y a la kavana, tant mieux, s'il n'y a pas, tant pis, mais l'action est le plus important. C'est là qu'on va expliquer, et là on va arriver au chapitre que j'attends depuis longtemps, Michael. On va expliquer pourquoi, pour Akadosh Baruch Hu, le fait qu'on travaille ici-bas sur Terre, il y a un but. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris le but, la raison pour laquelle on travaille ici-bas sur Terre, pourquoi on est descendu sur Terre, tant qu'on n'a pas compris la réponse à cette question, on ne peut pas répondre pourquoi Akadosh Baruch Hu il veut que les mitzvot soient dans l'action. Ça veut dire qu'en vérité, le but maintenant du cours d'aujourd'hui et donc des cours suivants, ça va être d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que toute notre action se passe matériellement. Pourquoi on insiste beaucoup sur le monde matériel, le Olam Hazeh Agashmi? C'est une idée maîtresse dans la Chassidoute qu'on va expliquer tout de suite. Alors, la question qu'on se pose, et c'est une question que Michael a posée souvent et que plusieurs ont posée. Alors, avant de rentrer dans le texte, je voudrais d'abord poser la question. La question est très simple. Pourquoi Dieu a créé le monde? C'est-à-dire, avant de me poser la question pourquoi la mitzvah est matérielle et pas matérielle, il y a une autre question beaucoup plus simple qu'il faut poser, et beaucoup plus antérieure, beaucoup plus primaire, à savoir, pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi il a créé ce système? Alors, on va réfléchir en tant qu'homme d'affaires. Un homme d'affaires, quand il crée quelque chose, quand il ouvre une affaire, même si c'est un investissement qui lui coûte des sous, et qui peut lui coûter beaucoup de sous, il peut lui coûter du temps, et peut-être même c'est un investissement qu'il n'y a que ses arrière-petits-enfants qui pourront en profiter. C'est possible, c'est un investissement à très long terme. Mais il y a forcément un intérêt. Ça veut dire que si tu vas prendre quelqu'un, tu vas dire, voilà, lance-toi dans une affaire, je te garantis que l'affaire ne marchera pas, il n'y aura aucun intérêt. Personne ne va se lancer dedans. Or, j'ai une question à vous poser. La Neshama, l'âme, quand elle était en haut, elle était pure. Quand elle descend en bas, elle pourra jamais revenir aussi pure qu'elle était quand elle est descendue. C'est impossible. On essaye de limiter la casse. On essaye de faire en sorte que c'est le plus pur possible, mais elle sera jamais aussi pure qu'elle était quand elle est descendue. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a gagné Dieu au change? Il envoie une neshama propre, il récupère une neshama à la casse. Alors bon, s'il faut, on va le réhabiliter, on va le repasser en Gilgoul, mais qu'est-ce qu'il a gagné? À quoi ça sert tout ça? Ok.
Quoi ça sert? Sûr de ça qu'elle peut pas être mieux, les chemins.
Comment elle peut être mieux?
Non,
je
ne
sais
pas.
Non. Comment, c'est qui est mort?
Elle est salie. Tu vas descendre dans un monde.
On doit forcément expliquer qu'il y a un intérêt pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a de ça? Ça veut dire comme ça. Je vais expliquer pourquoi je pose la question.
La teshuva, elle ne répare pas l'âme?
Oui, non, voilà, justement. Je ne parle pas par rapport à nous les hommes. Que nous les hommes, on fait des mitzvot, on va être récompensés, etc. Je parle pas par rapport à nous. Je parle de Dieu. Oubliez nous-mêmes. Je parle de Dieu.
Mais à quoi sert Neshama s'il y a...
Il a un business plan. Il a un business plan. Le business plan doit être profitable. S'il n'est pas profitable, on se lance pas. Donc Dieu, quand il a créé ce monde, ça fait 5176 ans. Il a un plan. Quel est ce plan? Pourquoi il a créé ce monde? Alors évidemment, vous imaginez que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Déjà à l'époque de la Gemara, à l'époque, surtout dans les Midrashim, il y a beaucoup, dans le Zohar, n'en parlons pas. Et on va essayer d'expliquer les réponses qui sont données. Il y a plusieurs réponses qui sont données. Il y a une réponse qui est assez connue, qui dit que, à Kadosh Baruch Hu, il a une nature du bien pour faire le bien. Je dis en hébreu, c'est Teva Hatov Leetiv. La nature du bien pour faire le bien. Et alors? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la nature du bien pour faire le bien. Donc Akadosh Baruch Hu, il a envie de donner. Mais il n'y a personne à qui donner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un monde dans lequel il y aura des gens inférieurs comme nous. Et il va se faire un plaisir de nous donner. Ça, c'est une réponse qui est donnée. Sauf que cette réponse est très difficile. Enfin, je ne dis pas que c'est une réponse qui est fausse, c'est une réponse qui est écrite, qui est importante, etc. Mais c'est une réponse qui est très difficile à accepter, en tout cas comme réponse ultime. Pour expliquer pourquoi la réponse est difficile à comprendre, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes Bill Gates, d'accord, et que vous avez envie d'aider des pays du tiers-monde, des gens pauvres. Vous vous levez un matin, votre manager il vous dit, écoute, il n'y a plus de pays du tiers-monde, maintenant ils sont tous riches. Il n'y a plus besoin d'aider. Maintenant lui, il a envie d'aider.
Je suis déçu.
D'accord. À part le fait qu'il est déçu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va rendre pauvres des gens, comme ça il pourra les aider. C'est logique?
Non, c'est un sentiment humain que tu décris là.
Non, bah, voilà, humainement parlant, est-ce que c'est logique? C'est-à-dire, je veux aider quelqu'un, mais comme il n'y a personne à qui aider, donc je vais créer la personne que je vais aider. Comme ça, je vais pouvoir l'aider. Vous voyez, vu de cet angle, ça fait bizarre. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il voulait donner. Comme il n'y avait personne à qui donner, il a créé des gens à qui donner. Oui, mais alors quoi, moi je suis un pion, alors il m'a créé pour me donner, quoi.
C'est machiavélique.
Oui, on ne peut pas dire que c'est la raison ultime. C'est horrible. C'est-à-dire, tu as un pion, tu vois, on t'a créé pour pouvoir donner. Donc évidemment, ce n'est pas la raison ultime, on va chercher beaucoup plus loin. Alors, il y a d'autres réponses. Il y a encore d'autres réponses. Mais nous, on va aller directement aujourd'hui dans la réponse du Midrash. Une réponse qui est citée dans le Midrash. Une réponse qui n'est pas simple. Mais qu'on est obligé de passer par cette réponse pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Et si on ne comprend pas ce qu'on fait ici, on ne pourra pas comprendre pourquoi on fait les mitzvot. C'est en réalité ça ce qui nous dérange. On a du mal à répondre à la question qu'est-ce qui est plus important, l'action ou la kavana, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Quand tu es devant un mur, tu es bloqué dans ton affaire, tu as un choix à faire. Des fois, le choix, il est très compliqué à faire. Pour répondre à ce choix, il faut dire, bon, écoute, pourquoi je suis là dans cette affaire? Quand tu sais pourquoi tu es là, tu dis, bon, bah, je suis là pour gagner des sous, donc je vais prendre le choix qui ramène le plus de sous. On est d'accord. Donc pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'on fait ici?
Dans la création, oui. On distingue Neshama bien sûr du corps et pour aller. Mais en même temps, ça fait partie de la même création. Il n'y a pas de création de Neshama s'il n'y a pas un but ultime. Alors pas créer des Neshama pour rester juste comme ça des Neshama.
Alors quel est le but?
C'est-à-dire que ça fait partie de la création.
Pour créer des... Mais pourquoi il a créé ce monde? Pourquoi il a créé ce monde? Voilà. Qu'est-ce qu'il a de ça?
Non, parce que tu parlais des Neshama, pourquoi, quel est l'intérêt des Neshama qu'elle descend?
Je vais donner un exemple. Kadosh Baruch Hu, il a un Gan Eden dans lequel tout va bien. Il n'y a pas de problème. On aurait pu y rester. Oui. Il a créé un monde dans lequel il est persona non grata, oui, dans lequel on ne veut pas de lui. Il nous fait descendre. Il dit, essaye de tenir bon. Mais pourquoi tu crées un problème? Qu'est-ce qu'il a de ça? Qu'est-ce qu'il a de ça de me mettre dans un problème? Ça, il me met dans un problème. Je vais essayer de surmonter comme je peux. Après, il va dire, bravo, t'as gagné. Qu'est-ce que lui, il a de ça? Bon, moi, ce que je dis ça, j'en sais rien, mais qu'est-ce que lui, il a de ça? Ok?
Non, mais lui, il voit pas son intérêt. Il voit notre intérêt.
Mais c'est qui ton intérêt? Il t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Pourquoi il t'a créé?
Il a créé mon âme.
Pourquoi il t'a créé ?
Mon âme est au Gan Eden.
Mais qu'est-ce qu'il a de ça ? Pourquoi il t'a créé ?
Non, pas encore.
Si, j'ai une partie de mon âme au Gan Eden.
Pourquoi il a fait descendre David à Suède, ici-bas sur Terre ? Pourquoi il l'a pas laissé au Gan Eden ?
Pour les pizzas. Il a une mission.
Hein ?
Comment il a fait descendre ? Mon âme qui l'a fait descendre.
D'accord. Pourquoi il a fait descendre l'âme de David à Suède sur Terre ?
Il a fait descendre une partie de mon âme sur Terre.
Pourquoi ?
Je sais pas si il répond.
Pourquoi ? Mais pourquoi ?
Pour gravir les échelons là-haut.
Mais tu étais déjà en haut.
Non, je suis pas en haut. J'ai un niveau du Gan Eden, pour arriver à un niveau.
Mais non, t'étais déjà en haut, t'étais au top, t'étais propre. Bien sûr, t'étais au top, t'étais au Gan Eden, qu'est-ce que tu veux ?
On a créé la Neshama au départ, elle est propre.
Il y a des millions et des millions de mondes.
Non, mais au départ, la Neshama elle est propre.
C'est écrit dans les Pokémon, lui.
Non, parce qu'il y a des millions et des millions de niveaux, non ?
Attends.
Il y a tonnes de niveaux.
7 niveaux de Gan Eden.
Pokémon, il y a plus de.
Il joue au conduire, tu l'as vu partout.
Avant, c'était boire au conduire. Maintenant, c'est jouer et boire.
Donc, il fait descendre pour gagner.
Mais qu'est-ce qu'on gagne ?
Est-ce que
je sais pas si tu vas savoir quand tu vas arriver là ou
que tu. Est-ce qu'on peut parler de
dans ça ?
Est-ce que Dieu entre guillemets c'est plaisir. Est-ce que Dieu a besoin
de se faire plaisir ? On va voir.
Bah, à partir
quel est le but de Dieu ?
Parce qu'une fois j'ai eu une discussion avec quelqu'un, on parlait de Dieu, la création, etc. Et il m'a bloqué, il a eu un raisonnement très, très cartésien. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, bon, pourquoi créer le monde ?
Voilà.
Pourquoi Dieu crée le monde ? Donc si Dieu a créé le monde, c'est qu'il a des besoins.
Oui.
Alors s'il a des besoins, finalement, il n'est pas si idiot que ça.
Mm-hmm.
Il n'est pas si...
Simon, tu sais, puisqu'il a des besoins.
Bien sûr, avec grand-père.
Je suis d'accord. Le raisonnement est...
On va développer. On va aller dans cette piste.
Et moi, je suis arrivé, je ne savais pas quoi répondre.
Ah oui, c'est une question très compliquée.
Oui, je mets là-bas. Qui veut café avant que je commence à travailler ?
Oui,
café.
Pas noir, pas noir.
Donc, on va aller un petit peu dans votre piste. Hein. On va développer.
Merci.
Veiné. Ah, c'est une question très compliquée. Hein.
Mais c'est très compliqué.
C'est très compliqué, mais il faut qu'on développe la réponse. Veiné. Donc, je suis au début du chapitre 36. Oui, Nemodat Zot, il est connu. Ma'amar, Botenozichonam Livracha. C'est connu ce que les Chachamim disent dans le Midrash Tanchuma. Que les Chachamim, ils ont expliqué là-bas. Chez Tachlit Briat Olamazehu, que le but de la création de ce monde est. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ce monde ? Parce que chez Nitavea Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu a eu un désir. Liotlo. Il barer dira betartonim d'avoir béni soit-il une demeure ici-bas. Il faut qu'on s'arrête. On peut faire un cours entier sur ce juste sur juste cette. Alors déjà le midrash il est un peu coupé l'herbe sous nos pieds. Je vous préviens tout de suite. Dès le premier mot. Pourquoi ? Parce que le midrash te dit Akadosh Baruch Hu a eu une envie. Après on va dire envie de quoi ? Mais déjà, le mot « envie ». Si tu dis une envie, déjà, c'est pas un besoin. Et ça s'explique pas forcément.
Une envie, c'est
une... Et une envie, ça s'explique pas forcément.
Une volonté.
Quelqu'un, il veut quelque chose. Par exemple, il y avait ce soir 3 pizzas. David, donne-nous les pizzas. De quoi il y avait ? Il y avait pizza.
Zaps. Champignons, aubergines.
4 fromages et...
Olives. 4 fromages et l'oriental.
Voilà. Ouais. Non, moi j'ai choisi cette pizza. Pourquoi j'ai choisi cette pizza ?
Parce que tu es Ashkenaz.
Non, parce que non. Pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi ? Pourquoi j'avais envie de celle-là ?
Hein ? Il n'y a pas d'explication.
Il n'y a pas d'explication.
Si ?
Non ?
Elle était à côté de toi.
Non, pas du tout. Non, elle était loin.
C'est celle-là.
Parce que t'as pas le 4 fromages. T'as choisi la 4 fromages.
Pourquoi j'aime pas la 4 fromages ?
Voilà, parce qu'il préfère.
Mais pourquoi j'aime pas les 4 fromages ?
Parce qu'il préfère autre chose.
C'est pas bon les 4 fromages ?
C'est très bon.
Alors pourquoi je l'aime pas ?
J'ai mis du merguez alors là.
C'est très bon avec le bleu que tu as mis dedans.
Parce que t'as pas envie de ça.
Mais pourquoi j'ai pas envie ?
Parce qu'il sait pas un connaisseur.
Non, mais il y a une notion.
Là, tu vas attaquer sur la pizza. Ah, j'attaquais sur la pizza, là.
Non. Pose pas des questions faciles.
Du besoin, après, il y a une notion de plaisir. On peut avoir un besoin et en même temps satisfaire son besoin.
Ah, pourquoi ?
Et se faire plaisir.
David, entre ça et ça, qu'est-ce que tu choisis ? Évian et bois d'or.
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je penche
plus vers la bois
d'or.
Je penche plus vers la bois d'or.
Pourquoi ?
Écoute, il y a cette sensation de
bulle.
Il y a ce petit frémissement en plus.
Sensation de bulle.
Bon.
Ça rappelle les biberons.
Alors, je reprends le Midrash. Qu'est-ce que dit le Midrash ?
Les biberons dans les biens.
Le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu a eu une envie.
Il s'est levé à 2h du matin.
Donc déjà, avant d'expliquer quelle était cette envie, c'est déjà une envie. Donc si c'est une envie, comme dit Michael, à juste titre, c'est pas un besoin. Très très important d'expliquer ça, que c'est pas un besoin.
C'est une volonté incontrôlable.
C'est une volonté. Non, j'ai pas dit que c'est incontrôlable.
Ah bah, si c'est une envie, c'est
ça, j'ai pas dit, non. Mais déjà, c'est une envie. Si c'est une envie, c'est pas un besoin, c'est une envie. Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément. Maintenant, quelle était l'envie de Dieu? Quelle était cette envie? Nous dit le Midrash, il a eu une envie d'avoir, comme dit l'Admor HaZaken, sur une envie, on pose pas de questions. Mais quelle était cette envie? Il a eu une envie d'avoir une demeure ici-bas. Alors, c'est quoi une demeure ici-bas? Alors, on s'arrête sur chacun de ces mots. D'abord, c'est quoi ici-bas? C'est quoi ici-haut? Le bas, c'est un endroit dans lequel on ne ressent pas Dieu. Le haut, c'est un endroit dans lequel on ressent un Kadosh Baruch Hu. Non, attention,
la
Dieu.
Demeure ici-bas, elle est après.
Attends, j'ai pas expliqué le mot demeure encore. J'ai expliqué d'abord haut, il faut qu'on fasse attention à chaque mot. Après, je vais en prendre, hein. Je vais en prendre après. Donc. On a dit que Dieu a eu une envie, c'est pas un besoin, une envie, c'est une envie, une volonté, on pose pas de question dessus, d'avoir une demeure ici-bas. C'est quoi ici-bas? Ici-bas, ça veut dire dans un endroit dans lequel il n'est pas le bienvenu. Quand tu es dans, ça veut dire Dieu est partout. Dieu, il n'est pas plus présent en haut qu'en bas. Dieu est autant présent en bas qu'en haut, c'est la même chose. Et même le mot en bas et en haut, c'est une image. Il n'y a pas de en bas, il n'y a pas de en haut. Le Gan Eden, il n'est pas en haut. Ne croyez pas qu'on va envoyer une sonde, on va trouver un jour, on va envoyer le Amos 7 et on va trouver un Gan Eden. D'accord? Il n'y a pas. Ça marche pas comme ça. D'accord? Il est là. Alors c'est quoi en bas? Ce qu'on appelle en bas, c'est une dimension dans laquelle on ne sent pas Kadosh Baruch Hu parce qu'il se cache. Donc dans un endroit comme ça, on n'a pas forcément envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Et quelle est l'envie d'Akadosh Baruch Hu? L'envie d'Akadosh Baruch Hu, c'est que justement, dans cet endroit, on va lui faire une demeure, une maison. C'est quoi une maison? Il y a une résidence de vacances. Bon, résidence de vacances, mais c'est pas une maison, ça. C'est pas ma maison. Ça, c'est une maison de vacances. Il y a ma maison. Quand, par exemple, je dois acheter un outil technologique, je dois acheter un outil high-tech, je sais pas, bon, chacun y trouvera l'exemple qu'il veut. Et tu peux pas en acheter deux. Et que t'as une maison de vacances, et que t'as une maison à Paris. Ta maison. Pour quelle maison tu vas l'acheter? Pour ta maison principale, la résidence principale. Même si c'est une personne qui est milliardaire et qui a des dizaines de maisons, il aura toujours une résidence principale. C'est pas que pour les impôts. Il y a une résidence principale. C'est une résidence qui est sa résidence principale. Alors, c'est quoi la nouveauté ici? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a eu une envie de faire sa résidence principale en bas. Ah, c'est déjà plus fort, ça. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il voit le Gan Eden, il dit ça, c'est pas ma résidence principale. J'habite, c'est une maison de vacances. Je vais là-bas. Je connais. Mais c'est pas ma résidence principale. Ma résidence principale, je veux la faire dans un endroit dans lequel je suis pas le bienvenu. Et quand même, mes enfants, ils vont me créer une maison. Et dans cet endroit, dans cette jungle, ils vont me créer une maison, un palais. Et ce petit palais qu'ils vont me créer, petit palais de 200 mètres carrés, mais dans une jungle dans laquelle j'étais pas le bienvenu, il vaut plus pour moi que le palais de 100 000 hectares qui est en haut.
Il n'y a plus.
Pourquoi?
Pourquoi tu dis pas le bienvenu?
Quoi?
Parce que
c'est un... Non, je parle pas du Beth Amikdash. Je parle pas du Beth Amikdash. Je parle du...
Partout.
Je parle partout. Là, par exemple...
On dirait que c'est comme le Beth Amikdash.
Non, je parle pas du Beth Amikdash. Je parle du verre d'eau que tu as devant toi, sur lequel tu vas faire une rachée à Kol Nebidvaro, et que grâce à ça, il va monter chez la Kadosh Baruch
Hu.
Moi, je comptais pas avoir un café, donc je vais l'avoir.
C'est la vérité.
Non, merci, d'accord. Donc on a, ça veut dire comme ça.
Pourquoi tu précises pas le bienvenu?
Parce que
c'est pas naturel.
Parce que c'est pas naturel de servir dans ce monde. On est dans ce monde. Le choix naturel, c'est le choix égoïste. Je fais ce qui me rapportera le plus d'intérêt. Alors il y a des gens qui te le disent clairement, il y a des gens qui te le disent pas clairement, mais tout le monde pense la même chose. D'accord. Il suffit d'aller dans un jardin d'enfants. Parce que dans un jardin d'enfants, personne ne cache quoi que ce soit. D'accord. Alors regarde les enfants comment ils se comportent. Ben c'est comme ça qu'on est tous en vérité devant.
Ouais, parce qu'ils sont naturellement.
Non, les enfants ils sont naturels. Et quand on est naturel, et ben chacun il se bat pour avoir ce qu'il veut. Alors il y en a qui prennent plus le devant qu'ils prennent moins. Mais c'est un monde dans lequel on est égoïste. Donc Dieu n'est pas le bienvenu. On n'est pas intéressé à servir Dieu. Je suis intéressé à me servir. Je suis intéressé à servir mes intérêts. Tu me dis, il va servir quelqu'un d'autre. Je me sers tout seul. Je me sers moi-même. Et là, dans un monde comme ça, dans lequel Dieu n'est pas le bienvenu. Dans un monde comme ça, on va créer une demeure pour Dieu. Alors c'est très fort ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire que quand je fais moi une petite mitzvah, ça a plus de valeur pour Dieu que des myriades de malachim qui sont en train de le servir et de le chanter dedans. Pourquoi ?
Ils n'ont pas de mérite.
Parce non, c'est pas qu'ils n'ont pas de mérite. Parce que.
C'est moins méritant.
Non, c'est... je ne joue même pas un rôle de mérite. Non,
ça n'est pas,
parce que ce n'est pas la résidence principale de la Kadosh Baruch Hu.
Non, mais il y a un truc. Excuse-moi, je peux te couper.
Vas-y.
Il y a un truc. Là, dans cette phrase-là, puisqu'on s'est arrêté à cette phrase, il y a marqué que.
Il a une envie. Et cette envie, c'est que sa présence. Elle soit dans une demeure.
Ah, pas sa présence, non, non. Que sa résidence principale soit.
Dans une demeure, dans un monde inférieur.
Un monde inférieur, disons. Alors,
si tu me dis que c'est tous les mots, ils sont importants.
Oui.
Ça veut dire que l'envie, elle précède la création des mondes inférieurs.
Ah, évidemment. Ah oui, bien sûr.
Non, mais alors d'accord. Ok, super. Donc on a déjà loupé le comment ça s'appelle, la raison de la création des mondes inférieurs.
Ah, maintenant, ce que je te dis, c'est qu'il a une envie.
La matérialisation.
C'est que pour matérialiser. Pour mettre en pratique sa son envie, il a créé un monde dans lequel il n'est pas visible.
Ça part d'une idée.
Parce que tout vient de ce monde, c'est Dieu qui le crée à chaque instant.
Oui,
donc qu'est-ce qu'il fait? Il a créé un monde dans lequel il n'est pas visible, c'est notre monde. Et son but, c'est que dans ce monde, nous allons évoluer et on va lui créer un palais. Et ça, c'est sa maison principale. C'est très fort,
la vraie raison, on ne peut pas le savoir.
Non, la vraie raison, c'est qu'il n'y a pas de raison.
Non, il n'y a pas de raison pour nous.
Non, non, non. Il ne peut pas avoir de raison parce que c'est une envie. C'est le mot du Midrash.
Okay, alors ça y est, le problème est réglé.
D'accord. Attends, il faut qu'on développe. Attention, on fait que commencer. Donc, il a une envie.
Ah, mais Midrash, tu sais, Midrash, il est un peu flou. Hein.
Non, pas, il n'est pas flou du tout, il est très clair.
Midrash, c'est Midrash.
Hein. Bah, non, c'est très clair. Il a une envie d'avoir une demeure. Il a une envie à Kadosh Baruch d'avoir une demeure, ici-bas. Alors, vous savez, quand on parle de demeure ici-bas, évidemment, la particularité qu'il y a dans notre monde, c'est le chidouche. Chidouche, en hébreu, ça vient de la nouveauté. Ça veut dire... Le fait que dans le Gan Eden, il y a des myriades de malachim qui sont en train de le servir, c'est pas une nouveauté. Pourquoi c'est pas une nouveauté? Parce que c'est normal. Ils n'ont aucun obstacle. À partir de quel moment ça devient un chidouche? C'est lorsqu'on est dans notre monde et que c'est pas le choix naturel et qu'on le fait quand même. Là, ça devient un chidouche. Pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez du premier pas de votre enfant?
Pardonne-moi, tu peux répéter?
Ouais. Ah, je vais expliquer.
C'est important.
Ah, je répète. Je viens de dire comme la chose suivante. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu aime de particulier dans notre monde? Ce qu'il aime de particulier dans notre monde, c'est le chidouche. Le chidouche, c'est la nouveauté. Pourquoi nouveauté? Le fait que les malachim le servent en haut, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'innovant. C'est normal, ils n'ont aucun obstacle. C'est des robots, ils sont formatés pour, ils le font. Mais nous, on n'a pas été créés pour.
Oui, il l'a créé.
Attends, je vais développer. D'accord.
Il est en train de fondre,
nous, on n'a pas ça. Ah, pourquoi il nous a créés? Parce que dans ce monde dans lequel, comme on a expliqué, dans ce monde dans lequel c'est pas le choix naturel, on va quand même le servir. Je suis content que c'est flou. Donc pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez, tu vas comprendre tout de suite avec l'exemple, la première fois que votre enfant a fait son premier pas? D'accord. Bon, essayez de vous imaginer.
Ça marque.
Évidemment, il y a une excitation. Il y a une excitation. C'est-à-dire, on est là, on l'applaudit, on est là, tu vois, les gens, ils sont en train de l'applaudir, etc. Ce même enfant, 2 ans plus tard, il va courir dans tous les sens. Et on lui dit, arrête de courir, tu me casses les pieds.
C'est terrible, ça.
Ça veut dire, on était là, Khalifa, vas-y, il ne promet pas. Et 2 ans plus tard, il court, maintenant, c'est pas il marche, pas un pas, il court. Un athlète. Tu lui dis, tais-toi, arrête de courir, va dormir.
Non, mais c'est comme parler, tu peux parler après, tais-toi.
Exactement. Pourquoi? Quelle est la différence? Alors, le Midrash, il dit, c'est très simple. Le Midrash, il dit, c'est parce que lorsque l'enfant a fait le premier pas, c'était un chidouche. C'était une innovation pour lui. Jusqu'à maintenant, il marchait à 4 pattes. Et là, il a commencé, tu entends, Michael? Parce qu'on a, ouais. Jusqu'à maintenant, l'enfant, il marchait à 4 pattes. Et là, maintenant, il a commencé à faire son premier pas, donc c'est nouveau. Mais 2 ans plus tard, lorsque l'enfant, il court.
Ça n'est plus nouveau.
Ce n'est plus nouveau. Donc là, quand ça n'est plus nouveau, on s'arrête plus sur le côté nouveau de la chose. On s'arrête sur le bénéfice réel. Et là, le bénéfice réel, il me casse les pieds. J'ai envie de me reposer, il me casse les pieds, il est en train de courir maintenant. Le Midrash, j'en ai un autre exemple. Un exemple intéressant aussi. Il dit, imaginez un roi. Un roi qui a envie de s'amuser un petit peu. Pas faire des bêtises. Il a beaucoup de stress. Il a envie de se divertir. Qu'est-ce que fait le roi? il va demander qu'on lui amène le perroquet. Il a un perroquet dans son zoo. Il va demander qu'on lui amène le perroquet. Et il va mettre le perroquet devant lui. Il va commencer à dire bonjour. Et qu'est-ce qu'il va dire le perroquet? Bonjour. Il va dire au revoir. Au revoir. Comme ça. Comme ça, comme un roi. Je suis le roi. Je suis le roi.
Là, il va lui couper la tête.
Je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Et le roi, comme ça, pendant des fois des heures, il s'amuse. Donc là, je pose la question, il dit, mais le roi, s'il veut quelqu'un qui lui parle, il a des ministres qui ont fait les grandes écoles et qui peuvent lui faire des super discours. Pourquoi le roi, quand il veut se distraire, il va prendre un perroquet qui va finalement que répéter ce qu'il est en train de dire? Et là, le Midrash répond à la même réponse. Il dit, c'est très simple. Il dit, le fait qu'un homme parle, c'est pas nouveau. Donc ça ne distrait pas, ça. Mais le fait qu'un perroquet il parle, ça c'est nouveau, parce qu'un perroquet il parle pas normalement. D'ailleurs, c'est pour ça, le même perroquet, quand tu vas rester avec lui 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, que tu t'habitues et qu'après c'est plus une innovation, il va te casser les pieds. Tu dis bon, allez, enlève-le moi. Ça veut dire que quand on est dans l'innovation, on cherche pas forcément l'apport, on cherche l'innovation. Pour revenir à notre sujet maintenant. C'est vrai que l'apport que nous on a avec nos mitzvot, il est très très loin de ce que les malachim peuvent faire. Parce que les anges, si vous voulez, c'est des fusées. Et quand ils décollent, c'est à des années-lumière de nous. Nous, on est des rigolos par rapport à ça. Mais les anges n'ont pas il leur manque un paramètre que nous avons. Et c'est ce paramètre qui fait la différence. Le paramètre de l'innovation. Étant donné que les anges n'ont pas de libre arbitre, donc c'est pas une innovation qui sert Dieu, c'est normal. Ils ont été programmés pour donc ils le servent.
Ils ne font rien de plus.
Donc il n'y a pas d'innovation. Alors c'est vrai qu'au niveau du chiffre, il y a du chiffre. Ça, c'est vrai.
C'est vrai. Il n'y a pas de marge.
Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a rien de nouveau.
C'est normal.
Il n'y a pas de ridouche. Alors que nous, les hommes, tu peux avoir un homme qui a essayé 50 fois de faire une mitzvah. Et il n'a pas réussi à la faire. Et à la fin, il a réussi une fois. Quand je me crois, il lui dit, la fois que tu as fait, elle vaut plus que tous les autres. C'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais au contraire, ça peut nous encourager. Imaginez une personne, tous les matins il met son réveil pour venir à la synagogue au Minyan. Bon, vous connaissez le réveil, il y a un bouton qui s'appelle snooze. D'accord. Bon, des fois snooze, il peut s'en faire exprès, ça peut être aussi off.
Ils sont à côté
les deux boutons. Des fois on peut s'en faire exprès, on peut appuyer sur off, on appuyer sur snooze. Ça peut arriver, d'accord, ça peut arriver à certaines personnes. Maintenant, ce bonhomme, tous les soirs quand il va dormir, il met son réveil. C'est-à-dire qu'il veut se réveiller le lendemain. C'est pas qu'il va dormir, il met aucun réveil, il met tout en mode avion, et qu'il dit, ne me réveillez pas, je me réveille quand je me réveille. Non, il a mis son réveil. Ça veut dire qu'il va se réveiller, c'est, okay. Ça va lui casser la tête pendant son sommeil. Il va mettre son réveil, encore plus son réveil va le sonner toutes les 9 minutes, il va lui casser les pieds. Mais il a pas réussi. Bon, à la fin il se réveille, il est déjà 9h, bon, laisse tomber, il a raté, bah, il retourne au lit, il repart jusqu'à midi.
Elle a fait créature,
évidemment, ça va de soi. Bon, il fait ça comme ça, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, etc. Et à la fin, après 30 fois qu'il a essayé d'aller et qu'il n'a pas réussi, au bout de la 30e fois, il a réussi un matin à ne pas se revoir par son Yitzhara, et là, il est venu au Minyan. Bah, extraordinaire. D'un autre côté, T'as un monsieur Taïeb comme ça, bon, Hachem, pour le citer, voilà, bonne santé. Il est là tous les matins, ça. Tu lui dis venir à 5h, il est là à 5h, pas de problème. Et c'est un grand mérite. Qu'est-ce que te dit la Torah? La Torah te dit bien sûr que le mérite de venir tout le temps, c'est un très grand mérite. Mais il y a aussi le mérite de l'innovation. Et ça, le mérite de l'innovation, on peut l'avoir seulement si c'est compliqué. Si c'est pas compliqué, il n'y a pas d'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'innovation. L'innovation, pour que ce soit innovant, il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas le choix naturel et qui est compliqué. Voilà la différence qu'il y a entre nous, les hommes, et les anges. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous aime et qu'il a fait sa résidence principale chez nous. Parce que chez nous, les hommes, nous avons l'innovation. Ok. Donc avec ça, on comprend qu'en vérité, la Kavana n'est pas vraiment... Enfin, elle est importante, la Kavana. Mais ce qui compte, c'est qu'on fait ce qu'il faut faire. Même si on ne comprend pas, parce qu'au final, quand tu fais ce qu'il faut faire, tu as créé la demain pour la Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas le choix naturel. C'est pas le choix naturel de faire un Shabbat, de pas travailler un Shabbat. C'est pas le choix naturel que la première chose que je fais le matin, je pense à Dieu. C'est pas le choix naturel que la dernière chose à laquelle je pense avant de dormir, c'est Dieu. C'est pas un choix naturel, ça. Le choix naturel, c'est de penser à moi et qu'à moi. C'est pas un choix naturel. Le fait de le faire, c'est un plaisir pour Akadosh Baruch Hu, c'est une envie, c'est que c'est, en quoi c'est un plaisir? C'est un plaisir parce que c'est pas un choix naturel, et Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir au fait que de voir comment on a innové, on lui a créé une demeure alors que c'est pas le choix naturel. Vous savez, on a parlé de la résidence principale. On a plusieurs résidences. On a la maison, d'accord? On a la voiture. La voiture, c'est une petite maison, la voiture. On a le bureau. On a la maison de vacances. D'accord? Il y a plusieurs petites. Et même dans la maison chez toi.
La synagogue, non?
La synagogue, ton siège, d'accord? Et même quand tu es chez toi à la maison, il y a plusieurs pièces. Et c'est pas le même sentiment dans toutes les pièces. Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la chambre à coucher, il y a ma chambre à coucher, il y a mon lit. Il y a une notion d'appartenance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, sa résidence principale, ça veut dire sa chambre à coucher, son lit, etc., c'est où? C'est ici-bas sur Terre. Dira, Betartonim, une demeure ici-bas sur Terre. Alors, maintenant qu'on a compris ça, donc reprenons. Nitave, Dieu a eu un désir, une envie. Akadosh Baruch Hu, Liyotlo, il a une envie d'avoir, dira, une demeure. Donc principale, résidence principale. Lo, Idbarer, pour lui, béni soit-il. Betartonim, ici-bas et pas en haut. C'est l'envie d'Akadosh Baruch Hu.
Ok. Est-ce que la demeure peut être l'homme, la pensée, notre pensée.
Et bien sûr.
On est des réceptacles.
Je donne un exemple. J'ai un verre de café devant moi. Si je me suis servi un café, on m'a servi un café, c'est que j'ai envie d'un café. Mm-hmm. Donc quand je prends le verre de café dans ma main, ce que mon corps veut maintenant, c'est que sans attendre, je prends ce café, je le mets dans ma bouche. Sans parler, sans dire bonjour, sans dire au revoir à personne. Quand je prends ce verre de café, et qu'avant de le mettre dans ma bouche, je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehakol Yamid Varo, je viens de faire une demeure pour un Kadosh Baruch Hu. Je viens de montrer que ce n'était pas le choix naturel, et je l'ai fait, donc j'ai créé une demeure pour un Kadosh Baruch Hu. C'est avec des petits gestes comme ça qu'on fait une demeure pour un Kadosh Baruch Hu.
Finalement, la demeure, ça peut être...
Oui, c'est pas une maison, c'est nous.
C'est pas physique du terme. Ah non, c'est pas du tout physique.
Ça peut être le corps humain, ça peut être la parole, la pensée.
Chaque fois que je sens que je... J'ai pas envie, je suis un peu dur, mais que je casse quelque chose. Par exemple, ce soir, il pleuvait. Je force ma nature, il pleuvait. Je me dis, bon, écoute, laisse tomber, je reste à la maison. Viens la semaine prochaine. Donc, peut-être que j'ai cassé quelque chose, je dis, je vais faire un effort, je vais venir quand même. C'est ça une demeure pour un Kadosh Baruch Hu. Et c'est un grand mérite, ça. C'est pas seulement un mérite pour moi, c'est un plaisir pour un Kadosh Baruch Hu. Ça, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez deux enfants. Un enfant qui est naturellement premier de la classe. Bon, c'est un premier de la classe. C'est-à-dire que voilà, il est bon. Dès le départ, depuis le début de l'année, tu connais déjà les notes qu'il aura. Un autre enfant qui n'est pas le premier de la classe. Un autre enfant qui a beaucoup, beaucoup de difficultés. D'accord? Maintenant, j'ai une question à vous poser. T'as un enfant, l'enfant qui est premier de la classe, d'accord? Enfin, celui qui est au top. Chaque semaine, il te ramène des super notes. Des 20 sur 20, des 100 sur 100, tout ce que tu veux. Il te ramène des super notes. L'autre, et bon, voilà, il te ramène un 19,9, t'es pas content, quoi. Et il t'a pas amené les super notes. D'un autre côté, tu as l'autre qui te ramène des zéros. Et une semaine, il veut te faire plaisir, il te ramène un bon carnet. Mais c'est pas un bon carnet qu'il a eu des 20.
12.
Des 12, des 11, des 13. Mais pour lui, c'est un super carnet. T'es très content. Maintenant, j'ai une question à vous poser.
Parce qu'il a forcé.
C'est qui le plus méritant?
C'est pas seulement celui qui est le plus méritant. C'est lequel qui va plus te faire plaisir.
C'est celui-là, il a été pas bien.
Moi voilà. Parce qu'il a, pourtant, l'autre, au niveau du chiffre, ça fait des semaines. D'ailleurs, ça peut le frustrer. Il dit, mais moi, ça va le frustrer. Il dit, mais moi, ça fait des mois et des mois que je lui amène des 20, j'ai pas eu un cadeau. Et l'autre, il lui ramène des 11, des 12, il a un cadeau. Mais c'est quoi ça? Dans quel monde on vit? C'est quoi ça?
Ce qui nous fait plaisir, c'est
le voilà. Vous voyez, on va encore faire un exemple. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de chercher loin. On le retrouve dans notre propre vie. Que ce qui nous fait plaisir, c'est pas la performance. Ce qui nous fait plaisir, c'est la mesure de l'effort. Quel effort la personne a fourni? Et là, c'est un exemple concret. On voit comment cet enfant qui a des difficultés, il va te faire plus plaisir. Après, peut-être tu pourras pas montrer peut-être trop par rapport à l'autre, mais concrètement, il te fera plus plaisir que l'autre qui a le super note. D'accord? Ben, c'est la même chose. Lorsque moi, je fais une mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup plus de plaisir que tout ce que les malachim peuvent faire parce que c'est un chidouche, c'est une nouveauté.
Ok. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est une question très simple. On a dit en haut et en bas. Dieu a eu une envie de faire une demeure ici-bas. Il faut qu'on explique c'est quoi le haut et le bas pour Akadosh Baruch Hu. Nous, on peut comprendre ce que c'est haut et bas pour nous. Le haut, c'est ce qui nous dépasse. Le bas, c'est ce qui ne nous dépasse pas. Mais pour Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a haut et bas?
Non, il y a, tu as dit voilé, dévoilé.
D'accord. Mais pour lui, est-ce que c'est voilé, dévoilé?
Non, lui, c'est pareil. Lui, il te voile, il se voile ou il se dévoile pas.
D'accord. Alors je vais pousser ma question un peu plus loin. Est-ce que pour Akadosh Baruch Hu, il y a une différence, l'espace que nous occupons dans ce monde?
Non.
D'accord. Est-ce qu'il y a une différence dans cet espace avant que le monde ait été créé, après que le monde ait été créé?
A priori, non, puisqu'il est un.
D'accord, donc il n'y a pas de différence.
Non.
Alors en quoi ce monde est bas?
Il est bas pour
il
nous.
Il est bas pour nous.
Naturellement,
ah, Dieu n'est non, pas bas. Il n'est pas bas que pour nous, il doit être bas pour lui aussi, parce qu'il a eu une envie de faire une demeure ici bas. Alors ce qui est bas pour qui?
Parce qu'il est tamé alors.
Hein?
Peut-être qu'il est tamé, c'est pour ça qu'il est bas.
Comment il peut être tamé?
Non, mais c'est-à-dire qu'il a été obligé de voiler sa présence.
Regardez. On va, je vais avancer.
Il n'est pas visible.
J'écoute, j'entends votre question.
Il est obligé de faire un niveau, sinon pourquoi faire un niveau?
Il est bas parce qu'il n'est pas visible.
Il n'y aura pas de mesure d'effort.
Donc il y a un niveau qui est bas.
Oui.
Donc ça veut dire que. Alors excusez-moi. Donc ça veut dire que la création du monde a changé quelque chose en Dieu.
Non.
Avant il était seul.
C'est pas possible.
Et il était le seul maître à bord. Maintenant il n'est pas seul.
Non, il est toujours seul.
Alors qu'est-ce qui a changé alors? Pourquoi c'est en bas alors? Tout est en haut alors.
Oui, mais tu peux voir la lumière que s'il y a l'obscurité quelque part.
Non, tu réponds pas à ma question. Je pose une autre question là. Je dis, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que pour Dieu, il y a quelque chose qui a changé avant la création du monde, après la création du monde?
Dieu,
a priori, non.
Non.
Comment non?
Mais pourquoi tu dis non?
Pour Dieu lui-même.
Mais attends, avant la création du monde, il n'y avait pas le monde. Il n'y a pas un endroit dans lequel il n'était pas bienvenu. Maintenant, il y a un monde dans lequel il est bienvenu.
Pour Dieu, on peut dire qu'il a changé d'existence. Dieu avant le monde ou après.
Est-ce qu'il était tout seul?
Tout seul
oui. Avant la création du monde. Est-ce qu'il est toujours tout seul?
Non.
Donc,
il est toujours de monde en tant qu'entité.
Alors, c'est une erreur de dire ce que vous dites.
Pourquoi?
Parce que c'est une erreur. On va voir tout de suite.
Non.
Et pourtant, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas poser la question. Veiné. Évidemment, quand on dit en haut et en bas, donc là, il faut qu'on définisse le haut et le bas. J'ai commencé à définir. On a dit que le haut, c'est un endroit dans lequel Dieu est visible. Le bas, c'est un endroit dans lequel Dieu n'est pas visible. Mais il faut qu'on explique. Évidemment, haut et bas, c'est pas physique. C'est enfantin. Quand on est enfant, on dit Dieu est en haut. Dieu n'est pas en haut. Dieu, il est partout. Il n'est pas plus en haut qu'en bas. Il faut enlever ça de notre tête. Probablement, ça nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie, mais...
C'est un conseil. Il
en prie. Mais Dieu n'est pas plus présent en haut qu'en bas. Toujours. C'est quand on est enfant. On regarde le ciel, c'est Dieu, etc.
Le footballeur, quand il marque un but...
Qu'est-ce qu'ils font?
Il lève le...
Il montre qui au.
Il voit où est allée la balle.
Il remercie le bon Dieu.
Même chez nous.
Non, mais c'est bien sûr.
Non, ça s'envole.
C'est imagé, bien entendu.
Non, c'est vrai,
on lève les yeux
au ciel.
Tiens, la notion de haut.
C'est enfantin. Non, mais dans la Torah, il y a ça. Mala, c'est écrit dans la Torah. Mais c'est une image. Donc évidemment, on ne parle pas de en haut et en bas. Géographique. Veiné. Tout de suite.
Quand quelqu'un est pris, il ne regarde pas en bas, il regarde en haut.
Mais Dieu, il n'est pas en haut plus qu'en bas.
À ma côté, on demande à Kadosh Baruch Hu.
Il n'est pas en haut à Kadosh Baruch Hu, il est partout.
Je sais, s'il est partout. À ma côté, tu es pris. Tu regardes en haut. Tu ne regardes pas en bas.
Oui, mais ça, c'est l'éducation.
Ça, c'est une éducation qu'on a, mais ce n'est pas forcément vrai.
Tu demandes.
Il n'est pas plus en haut qu'en bas, il est la même chose.
Je sais.
Alors justement. Donc on va essayer de définir maintenant.
Quand il prie, ils ont la tête baissée aussi.
On va essayer de définir, voilà, pour ne perdons pas le fil. L'objet du cours d'aujourd'hui, je vais oublier le début du cours, on a expliqué la question qu'on cherche, est-ce qu'on cherche la kavana ou l'action, ça je rentre pas dedans maintenant. L'objet de notre cours, c'est pourquoi Dieu a créé ce monde. On a dit Dieu a créé ce monde parce qu'il a eu une envie d'avoir une demeure ici bas. Donc il faut qu'on définisse la notion bas. Et vous allez voir que pour répondre à cette question, on va devoir toucher à beaucoup de choses. On va toucher à l'Égypte, à la sortie d'Égypte, au don de la Torah, aux mitzvot, à des tas de sujets pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire bas. Il dit comme ça. Veiné, lo shayar, vous avez dans les mots? Veiné, il y a des livres là, si vous voulez, hein?
Le jour blanc. 126.
Ah, vous l'avez dit, d'accord. Veiné, lo shayar, lefanamid barer, prinat ma laumata. Devant un kadosh baruch hu, on ne peut pas donner une définition de haut et de bas. Ki uit barer, memale kol almin beshavé. Car Dieu emplit tous les mondes de façon égale. Il n'est pas plus présent en haut qu'en bas. Donc déjà, on ne parle pas de haut et de bas géographique.
et la biuraïnian seulement. Voilà aussi l'explication du sujet. Et là, on va toucher à la, là, on va répondre à la question. Qui kodem shenivra aolam, avant que le monde a été créé, haya hu levado idbarer, il y avait Dieu seul, béni soit-il, yachid, uni, seul, ou meyuchad, d'accord, et unique, ou memale kol amakom shebaraba azeh shebaraba aolam, et il emplissait tout l'espace dans lequel il a créé le monde. Ça, c'était avant la création du monde. Maintenant, vegam ata, et même maintenant, ken hu lefanav idbarer. Même maintenant, il est encore comme ça devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même maintenant, par rapport à Akadosh Baruch Hu, il continue à remplir tout ce monde exactement comme c'était avant. Comme le texte dit, dans Malachi, Ani Hashem lo shaniti, moi Dieu, je n'ai pas changé. Dieu n'a pas changé. Comme on dit dans la Donolam, Vehuaya, Vehove, Vehuye, Betifara. Ça veut dire, il était, il est et il sera de la même façon. Non, pas quoi qu'il arrive, de la même façon.
Donc ça veut dire sans qu'il y a différence. Espace,
sans différence. Sans différence. Alors la différence c'est pour qui alors? Alors quoi? Ça veut dire quoi? Pourtant nous on sent clairement que dans ce monde, dans la planète Terre dans laquelle on vit, dans l'espace, Dieu n'est pas le bienvenu. Ça a commencé quand ça? Là la Mourazaken il explique une notion très importante qu'on retrouvera plus tard dans Shaharichut Emouna dans la troisième partie du Tanya, c'est dans plusieurs années. Il explique hein.
C'est ma chère qui nous l'enseignera.
Il explique, l'Admor HaZaken, quelque chose de très simple. Il dit, ça n'a pas changé par rapport à Dieu, ça a changé par rapport à nous. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a la façon comment Dieu se dévoile et la façon comment les créatures le perçoivent. La façon comment Dieu se dévoile, c'est exactement comme avant. Ça veut dire que, comme avant, Dieu éclaire sur le monde entier, il emplit le monde entier, et il est le monde entier exactement comme avant, sans aucune différence. La seule différence que Dieu lui-même a créée, c'est par rapport aux créatures, comment ils le perçoivent. Avant qu'il a créé des créatures, il n'y avait rien dans le monde qui pouvait former un écran devant lui. Une fois qu'il a créé le monde, il y a des créatures qui peuvent croire qu'ils forment un écran devant Kadosh Baruch Hu. Mais en vérité, dans l'absolu, rien ne peut former un écran devant Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est quoi le Tarton, c'est quoi le Elyon, c'est quoi ce qui est en haut, c'est quoi ce qui est en bas? En vérité, Dieu est présent partout. Exactement comme avant la création du monde, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'après la création du monde, Dieu a créé un ressenti. Nous, les hommes, avons un ressenti d'indépendance. Alors qu'en vérité, c'est faux. On n'est pas indépendant. En vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Alors qu'est-ce que ça change que je viens de dire ici? C'est-à-dire avec ça, on a réglé le paradoxe. Comment d'un côté, Dieu continue à gérer le monde, et c'est lui qui gère le monde, et c'est lui qui est le monde, et il n'y a aucun élément qui est véritablement indépendant sur Terre. Mais en même temps, à Kadosh Baruch Hu, il me donne un sentiment d'indépendance. On va essayer de donner des exemples pour expliquer ce que ça veut dire un sentiment d'indépendance.
Sentiment d'invulnérabilité, un sentiment de... Oui, mais en fait, ce sentiment-là, il...
Mais d'où vient ce sentiment?
Ah, je sais pas. Alors, en tout cas, c'est un sentiment qui décroît. Avec
Alors, on va donner un exemple.
C'est libre de faire ce que tu veux, c'est ce que tu penses.
On est doué.
Oui, mais tu... Imaginez par exemple que vous avez votre enfant. Et il est là, avec un stylo. Il veut dessiner, il sait pas dessiner. Maintenant, lui, il croit que c'est lui qui dessine. Parce qu'il a un stylo dans la main. D'accord? Et vous lui attrapez sa main, mais de façon invisible. De façon que lui, voit pas votre main. Il voit pas votre main. Et vous bougez le stylo. Vous bougez le stylo, vous le faites le dessin. Maintenant, lui, comme il voit pas votre main, qu'est-ce qu'il va croire? Il va dire, c'est moi qui l'a fait. J'ai un stylo magique, j'ai un bon stylo. Donc moi, j'ai manipulé mon stylo. Regarde, c'est moi qui a fait le dessin. Donc lui, il croit que c'est lui qui a fait le dessin. Et bien, maître, c'est lui qui a attrapé le stylo. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière ce stylo qu'il a attrapé, il y avait une personne qui bougeait le stylo. Mais ça, il ne le voit pas. Et si Akadosh Baruch Hu, et si maintenant on lui ouvrait les yeux et il voyait son père en train de lui attraper le stylo, là il aurait compris qu'en vérité c'est pas lui qui le fait. C'est son père qui est en train de le faire. Mais il le voit pas.
Mais en même temps c'est son père qui lui a caché.
Exactement. Mais ça veut dire que là dans cet exemple qu'est-ce qu'on voit? C'est un exemple, évidemment c'est un exemple théorique. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que c'est pas possible physiquement. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? Comment d'un côté tu donnes une sorte d'indépendance à la personne, mais en même temps, il n'est pas indépendant, c'est toi qui le tiens.
Alors, à quoi ça sert?
D'accord. À quoi ça sert? C'est que l'enfant a un libre arbitre.
Non, bah, quoi ça sert à la Vera
Non, bien sûr qu'il a un libre arbitre. Il a un libre arbitre parce que lui, il se dit, c'est moi qui dessine.
Mais en vérité, c'est un faux libre arbitre.
C'est un faux libre arbitre.
J'ai compris.
Non, mais le libre arbitre qu'il a, c'est d'avoir eu la pensée, d'avoir eu l'action.
D'avoir eu la pensée. D'avoir voulu bien dessiner, mal dessiner, etc.
Mais si on part du principe que Dieu est Dieu.
Oui, mais ça, tu ne sens pas que Dieu est Dieu. Non, tu ne sens pas que tu attrapes le stylo. Toi, tu vois que tu dessines. Tu dis, bon, je sais qu'on m'a dit qu'il y a un stylo, etc. Moi, je le vois pas. Moi, je vois que c'est moi qui ai un stylo.
Mais non, mais voilà, tu vas descendre, tu veux descendre le matin, tu veux prendre ta voiture pour aller travailler, ton ascenseur, il est bloqué. T'as pas décidé qu'il soit bloqué.
Oui, mais bon, d'accord.
Bon, on connaît ce
non, mais c'est
le phénomène de cause à effet. Finalement,
mais voilà.
Non, mais on subit des choses.
Ça s'appelle la guigne.
Donc,
c'est une notion très compliquée.
Je vais donner un autre exemple. Imaginez, Kadosh Baruch Hu, il vous donne un compte en banque qui recharge tout le temps.
Ah, ah.
D'accord. Mais il te montre pas qu'il le recharge.
Il va expliquer ça.
D'accord. Attendez. Ça veut dire quoi?
Je veux pas qu'il me montre.
Ça veut dire que vous, quand vous êtes né, on vous a appris que vous avez une carte magique. Et quand on prend cette carte, on la met dans une machine et on fait 4 chiffres. Il y a de l'argent qui sort.
Ça fait yes à chaque fois.
C'est la yes
pour les migrants.
Ça s'appelle la yes card. Et c'était une arnaque à la carte bancaire il y a très longtemps. Et puis ça le laissait.
Ça, c'est ce qu'elles pensent les femmes, tu vois.
C'est pareil. C'est pour ça que tu fais ta
carte. C'est pour ça que les femmes répondent encore.
Alors voilà. Alors dans ce cas, quand tu sais, il y a un dieu qui a rempli ton compte en banque. T'as un père qui t'a rempli ton compte en banque. Tu dis non, moi j'ai personne. Moi j'ai ma carte. C'est ma carte qui me donne l'argent. J'ai une carte magique.
Mais oui.
D'accord? Alors là, bien sûr, parce que je sais que c'est faux, qu'il y a quelqu'un derrière. Mais imaginez quelqu'un qui est né dans un monde dans lequel directement, depuis qu'il est né, on lui a donné une carte.
Les enfants.
C'est tout. Il y a la carte. Il y a pas de parents. Il est tout seul, il a une carte. Et chaque fois qu'il met, il tape ce qu'il veut et ça sort ce qu'il veut. D'accord? Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Voilà un exemple. C'est-à-dire, en vérité, c'est son père qui alimente son compte, mais lui, il ne le sait pas. Donc lui, il croit qu'il est indépendant, mais en vérité, c'est son père qui alimente son compte. Alors, de la même façon, qu'est-ce qu'on appelle en haut et qu'est-ce qu'on appelle en bas? En vérité, tout est en haut, tout est en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Pour le cadeau, je pense que c'est la même chose. La différence, c'est que, avant la création du monde, il n'y avait pas un endroit dans l'espace du monde dans lequel quelqu'un pouvait se sentir indépendant. Après la création du monde, Dieu a créé cette notion que dans l'espace dans lequel on vit, on peut se sentir indépendant.
Donc c'est un espace qui est retranché alors.
Non, il n'est pas retranché.
C'est une pièce à l'intérieur d'un appartement.
Si tu veux, c'est une pièce à l'intérieur d'un appartement dans laquelle celui qui veut se sentir retranché, il peut se sentir retranché. Celui qui veut se sentir indépendant, il peut se sentir indépendant. Et donc là, quel est l'effort? C'est très dur. C'est que tu regardes tout le monde autour de toi et tu dis mais on est indépendant. On est indépendant, on est démocrate, on est une démocratie, on décide tout ce qu'on veut ici. On fait ce qu'on veut. Et toi, dans ce monde démocratique, dans ce monde dans lequel il y a un libre arbitre, et dans ce monde dans lequel on voit pas Kadosh Baruch Hu, toi, tu dois venir et tu dois dire aux gens, non, mais vous voyez pas, mais en vérité, il y a un Dieu qui est derrière. Quitte même à ce que les gens te prennent pour un fou. Ils vont dire, mais où tu l'as vu, le Dieu? Il est pas là, il est où? Ça, c'est un chidouche, une nouveauté. Ça, c'est le chidouche. Le chidouche, c'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu, il est là. Mais dans un monde dans lequel on ne voit pas que Dieu est là, mon travail à moi, c'est de me comporter comme si que Dieu était devant moi et qu'il m'attrapait par la main. Qui était là, que je le regardais. Imaginez, Dieu il est là, tu le vois devant toi, tu vas faire une bêtise. Et ben, quand je me retiens de faire une avéra, je m'imagine comme si que Dieu était devant moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un chidouche. Parce que c'est pas le choix naturel. Le choix naturel, c'est de faire ce que je vois. Je vois, je prends, je vois pas, je prends pas. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me comporte selon un phénomène que je ne vois pas. Ce qui est fou, c'est pas la nature humaine. La nature humaine veut que je me comporte selon ce que je vois et que j'adapte selon ce que je vois. Si je vois pas, je fais pas. D'accord? Vous connaissez la blague, c'est même pas une blague, c'est une histoire. Avec l'élève russe. Vous connaissez? C'est une histoire très connue. Une fois, l'époque des communistes, il y a un professeur qui rentre en classe et qui veut s'assurer que tous les enfants, ils ont bien compris qu'il n'y a pas de Dieu. Ras v'shalom. Alors, il veut leur expliquer que le père, c'est Staline, et la mère, c'est la Russie, etc. Bon. Et à un moment, il dit la chose suivante. Il dit, la table, est-ce que vous la voyez? Il dit, oui. Vous pouvez la toucher? Oui. Alors, il y a une table. La chaise, est-ce que vous pouvez la voir? Vous la voyez? Oui. Vous voulez la toucher? Oui. Alors, il y a une chaise. Dieu! Est-ce que vous le voyez? Non. Est-ce que vous pouvez le toucher? Non. Alors, il n'y a pas Dieu. Là, il y avait un élève, un petit juif qui était dans la salle, qui a dit, le cerveau du professeur, est-ce que vous le voyez? Non. Vous le touchez? Non. Il n'a pas de cerveau. Pour dire que, bon, ben, c'est une image, c'est une histoire intéressante. Mais ce que je vous montrais par ici, c'est que la nouveauté qu'il y a dans notre monde, c'est qu'on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Et que même, bien qu'on ne le voit pas, on se comporte comme si qu'il était là et comme si que, parce que, pour montrer ce qui est la réalité, ce qui est vraiment. Ok. Donc, là, maintenant, on a défini ce qui est en haut, ce qui est en bas. Ce qui est en haut, c'est un endroit dans lequel Dieu ne se cache pas. Ce qui est en bas, c'est un endroit dans lequel Dieu est là, mais il se cache. C'est ça le terme employé. C'est pas qu'il n'est pas là. Il est là, mais il se cache. Ok? Maintenant, où Akadosh Baruch Hu a eu envie de faire sa demeure? En haut ou en bas? En bas. C'est quoi en bas? En bas, c'est dans l'endroit dans lequel il se cache et dans l'endroit dans lequel ce n'est pas le choix naturel de le servir. Ok. Alors, il continue. Il dit qu'il dit comme il est écrit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans ce monde, on ne le voit pas? Il y a plusieurs raisons. On va commencer par une raison très simple. Vous savez que Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est un des premiers qui a supplié Dieu, il dit, je veux te voir. Lorsqu'il était dans le buisson ardent, Dieu lui a demandé, il lui a dit, va libérer mon peuple. Il a entendu une voix. Il a dit, je veux te voir, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, ki lo irani ahadam vachai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Ça veut dire quoi qu'un homme ne peut pas me voir et rester vivant? Ça veut dire que si on arrivait à voir un Kadosh Baruch Hu, jamais on n'aurait pu avoir une existence matérielle indépendante. On aurait brûlé, on aurait cramé tout de suite. C'est comme tu prends un rayon de soleil, tu le mets à sa source, dans le soleil, il crame tout de suite. À quel moment le rayon du soleil prend une indépendance? Comme ça qu'explique le Zohar. Il prend une indépendance quand il s'éloigne du soleil. Vous voyez les rayons du soleil, il n'y a plus de soleil maintenant, mais les rayons du soleil qui éclairent jusqu'ici. Ok? Pourquoi on ne se brûle pas avec les rayons du soleil? Parce que ces rayons du soleil, ils ont pris une indépendance. Ils sont descendus, ils ont pris une indépendance. Il y a une distance. Mais ce même rayon du soleil, tu le mets à sa source, il brûle. Il n'existe même pas ce rayon du soleil. Imaginez, si Akadosh Baruch Hu, il nous montrait les choses réellement telles qu'elles étaient, on aurait brûlé instantanément. C'est pas qu'on n'aurait pas eu libre arbitre, c'est qu'on notre corps n'aurait pas pu exister. Un corps matériel comme ça, il n'aurait pas pu exister. Rien. Zéro. C'est pour ça que qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il se cache. Maintenant, je vais aller plus loin. C'est pas seulement les hommes qui peuvent pas voir Dieu. Même les anges ne peuvent pas voir Dieu. Si un les anges, même les anges, qui sont les créatures les plus élevées, même les âmes, si un ange ou une âme pouvait voir Dieu, il aurait brûlé instantanément. Donc finalement, personne ne peut voir Dieu. Donc qu'est-ce qu'ont de plus les anges que nous? Ils voient même pas Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Parce que celui qui voit Dieu, il brûle tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est qu'ils font du chiffre. Ils sont programmés une fusée. Vous savez ce que c'est la fusée? Tu la mets en dehors de l'espace, d'accord? Enfin, en dehors de l'attraction terrestre. Tu la mets, tu l'envoies. Tant que tu l'arrêtes pas, elle s'arrête pas. Tu l'envoies, elle s'arrête pas. C'est ça les malachim. Tu les envoies, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas besoin d'effort. D'accord? Ça, c'est les malachim. Mais ils ne voient pas Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils n'ont rien de plus que nous. Ce qu'ils ont de plus que nous, c'est qu'ils font du chiffre. Nous, on ne fait pas du chiffre, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on a l'aspect ridouche que personne n'a. L'aspect de la nouveauté. Et c'est pour ça qu'on dit que, après 120 ans, lorsqu'on monte en haut, et que, on se rend compte des mitzvot qu'on aurait pu faire, on regrette. On se dit, mais, surtout des fois, on voit que, avec une petite mitzvah, on aurait pu changer beaucoup de choses.
Mais si on continue à pas le voir une fois ça après 100, parce qu'on va pas, on verra toujours pas Dieu après
120 ans. Non. Alors, après 120 ans, on voit pas Dieu, mais on voit l'impact de nos actions.
D'accord.
Bah, c'est déjà pas mal.
Qu'on voyait Dieu en moi.
Il y a un exemple que je vous ai amené, ça
fait que... Dieu en moi.
Non, impossible. Impossible.
Moi aussi, je croyais. Non. Je pensais que même les anges voyaient Dieu.
Il y a un exemple que je vous ai donné, ça fait quelques années. Une fois, imaginez cet exemple. Une fois, on fait rentrer quelqu'un dans un cockpit. Un cockpit d'avion. D'avion ou de fusée, ce que vous voulez. Maintenant, la fenêtre est cachée. Bon. Donc, on voit rien ce qu'il y a derrière le cockpit. Et on dit au pilote, on dit voilà... Là, ça, c'est le manche. Là, on accélère. Là, on monte. Là, on tourne, etc. Bon, on l'explique. Et il y a des millions de boutons, enfin des milliers de boutons. On dit là, il faut appuyer. Là, il faut pas appuyer, etc. Bon. Maintenant, il y a des boutons qui ont l'air attirants, mais on lui a dit, il faut pas toucher.
Non. Après, le pilote, il regarde. À un moment, il y a un bouton qui a l'air attirant. Il touche, il appuie, il se passe rien. Bon, il se passe rien. Il re-essaye, etc. Il appuie, etc. Donc, du coup, il appuie partout, il appuie où il veut, même des boutons qu'on lui a interdit de toucher. Ensuite, quelques années plus tard, on lui ouvre le rideau. Et là, il voit les résultats. Tu vois, tu te rappelles, t'appuies ce bouton à droite, là, t'as construit une rue. Là, t'as détruit une rue. Là, t'as construit un immeuble. Là, t'as détruit un immeuble. Alors là, quand tu vois ça, hein, le pilote, il dit, attendez, là, je vais appuyer sur ce bouton, là, je... C'est trop tard maintenant. C'est ça le ressenti qu'on aura quand on sera en haut. Ça veut dire, on va ouvrir le rideau, mais on va fermer les boutons. Tu peux que voir le résultat de ce que tu as fait.
Rien ne va plus comme au casino.
Non, après, il y aura des belles rues, il y aura aussi des rues poubelles, malheureusement.
On aura des sentiments humains, de honte, des choses comme ça.
Ou... Évidemment. Bah, bien sûr qu'on aura honte. Quand tu vois, t'as construit des choses, tu vois, t'as détruit, et tu dis, mais attends, mais. Et des fois, tu te dis, mais mince, pour une petite chose, pour une petite idée, j'ai tout gâché avec une.
Non, mais tu regrettes tout le temps.
Non, il n'y aura pas que du regret. On aura construit.
Il y a que du regret, c'est obligatoire.
Pas du tout. Pas du tout.
Tu peux pas être.
Non.
On n'est pas.
Oui,
ça serait.
On a construit aussi. On a construit aussi.
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin.
Kiloir ani Adam Vachai. Ça veut dire comme ça. En fait, il y a trois niveaux. Il y a un premier niveau dans lequel Dieu se montre à nous. S'il se montre à nous, on n'existe pas. Il y a un deuxième niveau dans lequel Dieu ne se montre pas à nous, mais on voit l'impact de nos actions. Ça, c'est au Gan Eden. Et il y a un troisième niveau, c'est le niveau dans lequel nous, on se trouve ici-bas, dans lequel ni on voit Dieu et ni on voit l'impact de nos actions. Bonjour les dégâts.
Il y a que des couches, alors.
Hein? Ah oui, il y a que des couches. Donc là, tu t'imagines, dans le monde dans lequel on vit.
On n'est jamais au noyau.
Mais c'est une abnégation de faire une mitzvah. Parce que ni je vois Dieu, ni je vois l'impact de ce que je fais.
Donc finalement, on devrait aller directement au Gan Eden, nous.
Hein?
On devrait aller au Gan Eden, mon gars. Non, mais attends.
Non, mais c'est vrai.
Pourquoi? Pourquoi on se casse la tête? On devrait aller direct au Gan Eden.
Pourquoi?
Parce qu'on doit, comment ça s'appelle? On est dans un monde où tout est caché. On est comme ça. Bon, on nous dit t'appuies pas là, on n'appuie pas. Mais en fait, on nous a construit avec une envie d'appuyer à droite et à gauche.
Ah ouais.
Et puis, quand tu nous dis t'appuies pas là, bah on appuie, mais tu nous as construit comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fallait pas nous construire comme ça. Fallait pas nous mettre ce programme.
Attention, il t'a construit comme ça, mais il t'a donné un livre.
T'as donné des règles.
Non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi.
C'est la seule chose.
Comme tu dis à un enfant, tu parles des enfants. Donc ouais. C'est comme tu dis à un enfant.
Non.
Un petit enfant.
Un enfant, il a pas toute sa tête.
Non, attends. C'est comme tu dis à un enfant, tu sais, voilà, je vais te mettre ici une assiette avec des bonbons que tu peux manger, mais il ne faut pas les manger. Alors vas-y. Et un enfant, disons.
Et moi, je pars de la pièce et je ne compterai pas les bonbons au retour.
Voilà.
Alors, un grand sachet plein de bonbons.
Non, mais c'est difficile.
Il y a des bonbons.
Au final, on est qualifié.
Ou des bonbons ou des chocolats avant.
Non, mais on est qualifié d'office au final.
Pas du tout.
Ah bon.
Parce que. Le père, quand il a laissé le fils avec les bonbons,
il
lui a laissé 1000 bonbons. Maintenant, il sait que le fils, il va se servir. Maintenant, le fils, il peut servir une fois, il peut servir 100 fois. Si le fils, au lieu de servir 100 fois, il s'est servi 50 fois, eh ben, les 50 fois, c'est des mitzvot.
Parce qu'il s'est...
Alors, il a échoué 50 fois, mais il a gagné 50 fois. Et après, on fait une moyenne.
D'accord, donc on n'est pas jugé finalement au résultat.
Ah, jamais, on peut pas juger. C'est impossible de juger au résultat.
Qu'à l'effort.
Les malachim sont jugés au résultat, mais on n'est pas jugé au résultat, on est jugé à l'effort.
Mais tu disais un truc très intéressant tout à l'heure, quand tu disais que, en fait, tout est basé sur le chidouche, ça veut dire que c'est du créationnisme. Ce que Dieu attend de nous, c'est que l'on crée en permanence.
Oui.
Et que si on venait à s'arrêter de
créer... J'ai pas envie de seulement créer, innover.
Oui,
on crée pas, on innove.
Oui, d'accord. Ok, on crée quelque chose de nouveau. Voilà. Oui. Donc finalement, c'est innover. Et si on s'arrêtait de faire cela, le monde n'aurait plus aucun sens.
Pour Dieu, oui. Ah oui, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Si on n'innove pas, il ne sert plus à rien. Il faut constamment innover. Ok. Alors, on va continuer un petit peu dans les mots. Kedirtiv. Alors, on va prendre les mots, je sais pas où on est, là, dans le en français.
Tant qu'il y aura
des générations, il y aura l'innovation. Pourquoi finalement avoir une fin?
Il n'y a pas besoin de chercher des grandes innovations.
Non. C'est des petites innovations. C'est quand même que le dessein de Dieu, c'est pour un temps donné, voilà. Et donc, si on part dans cette réflexion, on faudrait dire en réalité.
Pourquoi?
On sait qu'il y a l'avenue de Machia.
Je vais répondre à ta question.
Qu'est-ce qui va devenir après
le... Qu'est-ce qui définit ce temps donné? D'ailleurs, on va parler de ça aussi, de Machia. Qu'est-ce qui définit ce temps donné? La réponse est très simple. Si on voulait avoir une réponse objective avec un chiffre...
Il y aura toujours des nouveautés s'il y a d'autres générations.
Si tu voulais avoir une réponse objective avec un chiffre, là, effectivement, notre génération est la génération qui est la moins prête pour recevoir Machia.
Pourquoi?
Parce que tu prends il y a un siècle, la majorité du peuple juif était religieux. Tout chez les séfarades, chez les ashkénazes, on remonte à 3 siècles. Allez, viens, on va remonter à 3 siècles. Ouais, ouais. Tu remontes à 3 siècles, la majorité du peuple juif était religieux.
Ouais. Pratiquant.
Pratiquant, chômeur Shabbat, pratiquant.
Ou elle était plus juif.
D'accord. Aujourd'hui, on a combien de pourcents? 10%.
10 serait, ça serait bien.
Ça serait bien, c'est 10. 10%.
C'est tout.
Alors, bien sûr.
Vous êtes d'accord religieux, c'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance.
Font Shabbat, on va rester à Shabbat. T'as 10% qui font Shabbat, c'est le bout du monde.
C'est
10%, ils ont la connaissance.
C'est la,
c'est
la réalité, ce que je vous dis.
110 000 de qui fréquentent une communauté.
C'est 20%.
C'est la vérité, c'est 10%.
Après, 10%, c'est en moyenne 10%. On va après, ça peut monter 10, 12, non, même maximum 15.
Allez, on va dire appeler Braque un peu plus.
Voilà, ils n'avaient pas besoin de comprendre.
Ouais, alors concrètement, ça veut dire quoi? Attendez, je vais répondre à la question. Je réponds à ta question, Yves. Donc, si tu dis qu'on veut du chiffre, le chiffre, on l'a pas aujourd'hui. On est très très loin du compte. On est loin de Machiach. Okay. Comment les rabbinis peuvent, comme le rabbinim, le rabbi, etc., ils peuvent dire que Machiach est très proche? Parce qu'encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu, il analyse le monde, il analyse pas par rapport à la performance, il analyse par rapport à l'effort. Le fait que le Ham Israël était pratiquant lorsqu'il était dans des ghettos et dans des shtetels et dans des mélars, etc., ça c'est pas une innovation, ça. Parce qu'à l'époque, c'est pas compliqué. Celui qui quittait le ghetto, celui qui quittait le mélard, il était out. C'était terminé. Il sortait du peuple juif. Il était, à la limite, il y avait même des gens que dès que leur enfant quittait comme ça, on faisait shiva sur l'enfant. Bien sûr. Mais c'est la réalité, ce que je vous dis. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était ou t'étais in ou t'étais out. Nous, aujourd'hui, la particularité du 20e siècle, du 21e siècle, c'est quoi? C'est qu'on est out et que dans le out, on crée le in. Ça veut dire que on est dans un environnement dans lequel on est dehors. On n'est pas dedans, on est dehors. On n'est pas dans le ghetto, on n'est pas dans le mélard, on est dehors. Et dehors, on doit se comporter comme si on était à l'intérieur. Mais c'est un challenge extraordinaire, ça.
Très dur.
Ça veut dire que on peut pas compter en quantité. Alors évidemment, après chacun par rapport à son degré de religion, il doit s'exiger plus. Mais même quelqu'un qui est très loin de la Torah, qui a fait un effort, cet effort pour lui peut être extraordinaire. Donc c'est une innovation, c'est une nouveauté. C'est comme, si vous voulez, c'est comme la différence entre nous qui sommes pratiquants, on est des adultes. Celui qui n'est pas pratiquant, c'est comme un enfant. Donc tu vas pas juger de la même façon un adulte et un enfant. Un enfant, il fait un petit effort, t'es heureux comme tout. Après, tu vas le pousser à devenir adulte. C'est pour ça que c'est très difficile d'estimer, et il y a que Dieu qui peut savoir et qui peut envoyer le message aux rabbanim et aux prophètes, de leur dire quand Mashiach arrive, de leur dire qu'on est proche. Si on dit qu'on est proche, ça veut dire qu'il y a eu des efforts extraordinaires qui ont été faits ces dernières générations qui n'ont jamais été faits. Des efforts extraordinaires qui n'ont jamais été faits. Et c'est ce qu'on dit ici. Donc encore une fois, pour un autre sujet. Dieu a eu une envie de faire une demeure ici-bas. C'est quoi ici-bas? Ici-bas, c'est dans un endroit dans lequel ni il est visible, Dieu est visible, donc ni Dieu est visible et ni on peut voir l'impact et le résultat de nos actions. Donc c'est un monde dans lequel c'est pas populaire, faire les mitzvot. Et pourtant, elle est fait. Pourtant, elle est fait. D'ailleurs, vous savez que quand Dieu a voulu créer le monde, les malachim se sont opposés. Ils ont mis leur veto. Pourquoi? Ils ont dit, mais pourquoi tu vas créer l'homme? C'est très bien que l'homme, il reviendra jamais aussi propre que tu l'as fait descendre. Et qu'est-ce qu'a dit Moshe? Et d'ailleurs, l'histoire s'est reproduite aussi lorsque Moshe Rabbeinu est venu chercher la Torah. La Gemara Shabbat raconte. Lorsque Moshe Rabbeinu est venu chercher la Torah dans le ciel. Et les malachim ont mis le veto. Ils ont dit, on ne laisse pas passer. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on ne laisse pas passer. Et il dit, pourquoi? À quoi sert vous donner la Torah? On va vous donner la Torah, mais vous allez la prendre. Quand vous descendez, quand vous remontez, vous êtes pire que quand vous descendez. Nous, on vous voit descendre, nous. Hein, vous descendez, vous remontez. Alors, qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Il a dit, réponds-leur. Qu'est-ce qu'a répondu Moshe Rabbeinu? Il a dit, dans la Torah, il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu. Est-ce que vous avez d'autres dieux? Les anges? Dans la Torah, il est dit, respecte ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un père et une mère? Dans la Torah, il est dit, 6 jours tu travailleras et 7 jours tu reposeras. Vous travaillez, vous savez ce que veut dire le travail? Qu'est-ce qu'il voulait dire, Moshe Rabbeinu, cette réponse? Ce qu'il voulait dire, cette réponse aux anges, il voulait leur dire,
chez vous, il n'y a pas de monde matériel, il n'y a pas d'innovation. Or, la Torah, qui est le projet, le business plan d'Akadosh Baruch Hu, Dieu a créé la Torah avant de créer le monde. La Torah, qui est le business plan d'Akadosh Baruch Hu, de quoi elle parle? Elle parle d'un monde matériel. Ça veut dire que quel est le but de la Torah? La Torah a été imaginée pour un monde matériel dans lequel faire la Torah et les mitzvot, c'est pas populaire et on va quand même le faire. Et ça, c'est la réponse que donne Moshe Rabbeinu aux anges. Il leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez garder la Torah, mais elle n'est pas faite pour vous, la Torah. C'est quoi une mitzvah pour vous? C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, elle a une valeur quand il y avait un obstacle. Mais vous, il n'y a pas d'obstacle. Donc c'est pas pour vous que c'est fait. C'est-à-dire de l'en comprendre qu'avant même que Dieu a créé le monde, Dieu a créé la Torah. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette Torah? Il y avait le plan. C'est quoi le plan? Le plan, c'est que on devra servir à Kadosh Baruch Hu dans un monde qui est bas, c'est-à-dire dans un monde dans lequel la Kadosh Baruch Hu n'est pas populaire. Bien qu'en vérité, il est autant présent, il est aussi présent qu'en. Ce qu'il dit ici, mais Zéou Inyan, alors on est, pardon, Kedirti, comme il est écrit. Voilà, oui, on a juste passé là. Kilo ir ani adam bachai, ou de birchu rabotenu zichonam livracha, comme les chamim m'ont expliqué, shafilu malachim anikreim chayot en ruim, même les malachim qui sont appelés donc les anges, eux ils ne voient pas. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ne pas compliquer, donc ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que pourquoi Dieu a créé ce monde, c'est parce qu'il a eu une envie d'avoir une demeure ici-bas. On a commencé à expliquer que c'est quoi le bas, c'est un endroit dans lequel Dieu est aussi présent qu'en haut, mais il n'est pas visible. On ne voit pas l'impact. Il n'est pas visible. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'on le serve dans un endroit comme ça. Ok. Bon, faut qu'on développe encore la semaine prochaine. On va expliquer la différence entre le matériel, le spirituel, etc. Et est-ce que quelqu'un peut s'opposer à Dieu, etc. Les forces du bien, les forces du mal. Bon, faut qu'on développe tout ça dans la prochaine. Voilà. On vous laisse méditer et on reviendra dessus.
Pour les hommes, il n'y a pas de haut et de bas. Il y a que du bas.
Bien sûr qu'il y a du haut et du bas.
Ben non, puisqu'on ne voit pas en haut, on ne voit pas en bas.
Oui, mais pour un homme, il y a du haut et du bas dans le sens que, par exemple, quand je suis le Shabbat, dans un endroit, quand je suis le Shabbat, que je ne suis pas dans la vie active, je suis un petit peu dans un monde supérieur. C'est-à-dire, je n'ai pas d'obstacles. Mais quand après je reprends la vie active, là j'ai des obstacles, donc là je suis dans le monde inférieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un va-et-vient comme ça. C'est plus difficile de servir Dieu dans la semaine que le Shabbat. Parce que le Shabbat, il n'y a pas d'obstacles. La semaine, il y a des obstacles. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Que servir Dieu le Shabbat, c'est plus important que servir Dieu la semaine. Tu dis non. Servir Dieu la semaine, ça a plus de poids que servir Dieu le Shabbat. Parce que c'est une innovation. C'est à contre-courant.
C'est plus difficile.
Vous savez, quand on veut analyser, la Gemara dit, quand on veut analyser les poissons, comment c'est, est-ce que les poissons sont vivants ou est-ce que les poissons sont morts? La Gemara dit, c'est très simple. Elle dit, les poissons qui vont avec le courant, on ne sait pas s'ils sont vivants ou ils sont morts. Mais un poisson qui va à contre-courant, c'est qu'il est vivant. À contre-courant. Quelle est la preuve qu'un juif il est vivant? C'est quand il va à contre-courant. À contre-courant. Il est à contre-courant. Voilà. Quand tu vas à contre-courant, c'est-à-dire que le courant te dit, on y va, il n'y a pas de Dieu, fais ce que tu veux. Moi, je vais à contre-courant. Ça, c'est la preuve que je vis. C'est ça.
C'est ça la vie.
Et puisque j'ai parlé des poissons et de la nouveauté, le Midrash, il raconte que les poissons, lorsqu'il pleut, les poissons ils remontent à la surface.
Oui.
On le voit ça.
Oui.
Les poissons.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, le meilleur moment pour la pêche,
quand il pleut, oui.
C'est quand il pleut. C'est le meilleur moment. Oui. C'est quand il pleut, les poissons ils montent.
Ils
alors le Midrash pose la question. Il dit mais pourquoi ils montent?
Je sais pourquoi ils montent.
Pourquoi ils montent? Il dit mais pour boire, mais ils ont toute l'eau qu'ils veulent. Oui. Qu'est-ce qu'il répond le Midrash? Il dit non, parce qu'ils veulent de la nouvelle eau.
Ah. Quoi?
La nouvelle eau.
C'est un événement.
Le chidouche. Eh, comment, dans tout le monde, dans le monde, c'est comme ça.
Quand tu pleures, tu vas aller pêcher, c'est comme ça.
C'est le meilleur moment.
C'est le meilleur moment.
C'est le meilleur moment pour pêcher.
Pourquoi c'est pêcher de pêcher?
Pêcher. Ah, en fait, vous savez pourquoi biologiquement il monte à la surface quand il pleut?
Ah, biologiquement, je sais pas.